Ce matin, nous allons poursuivre notre série sur le thème de l'argent qui a été commencée par Clément il y a quelques semaines. Et j'aimerais lire avec vous un texte qui est dans 2 Corinthiens 9, versets 7 à 8. 2 Corinthiens 9, versets 7 à 8. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits, et ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Seigneur, que ta parole soit source de vie pour nous et qu'elle nous introduise dans ta joie et dans ta dimension de la grâce. Au nom de Jésus, amen. Le partage de nos biens fait partie de la vie normale du disciple de Jésus-Christ. En tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que serviteur du roi des rois, nous devons tous réfléchir à notre manière de soutenir la progression du royaume de Dieu. Et pour cela, nous pouvons donner de notre temps, nous pouvons donner de nos talents, nous pouvons donner de notre argent ou de nos biens matériels. Et donner pour le Seigneur est source de joie. Donner pour le Seigneur est source de grâce. Une grâce parce que nous avons tout reçu de Dieu et que ce que nous pouvons donner, nous le devons d'abord à la grâce de Dieu. Et puis celui qui fait preuve de générosité, qui peut donner sans regret ni contrainte pour soutenir l'œuvre de Dieu, est quelqu'un qui est doublement béni. Parce qu'il bénit les autres et Dieu le bénit pour sa fidélité. J'ai pu constater en discutant avec des chrétiens et même avec des chrétiens du tabernacle que certains n'ont jamais reçu un enseignement pratique sur la manière de donner. Ils ont peut-être entendu une prédication sur la générosité, mais ils ne savent pas comment concrètement mettre cette générosité en œuvre. Comment est-ce que l'on donne? Où donne-t-on? Pour qui? Pourquoi fait-on passer des bourses? Comment met-on dans les bourses? Vous savez, des gestes qui semblent tout anodins pour les plus anciens, qui êtes là depuis très longtemps, sont parfois nouveaux pour des personnes qui nous rejoignent. Et je crois qu'il est bon ce matin d'aborder des questions toutes pratiques, finalement, sur ce que le Seigneur nous invite à vivre. Et je crois que c'est important parce que notre manière de faire dit quelque chose de notre relation à Dieu. Ce que je donne révèle quelque part ma situation devant Dieu, là où j'en suis. Et si je ne donne que quelques petites piécettes lors de l'offrande, alors je précise bien, sauf si je manque du nécessaire, mais si je ne donne que quelques petites piécettes lors de l'offrande, je peux me poser légitimement la question, est-ce qu'il s'agit encore d'un geste de reconnaissance ou simplement d'un geste que je n'ai pas préparé, je prends ce qui reste dans la poche? Est-ce que ça traduit du coup de la négligence spirituelle ou peut-être même de l'avarice? Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux 13, 15, 5, pardon, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un chrétien venir vers vous avec cette confession et vous dire, écoute frère, j'ai un problème, je suis attaché aux richesses, je souffre d'avarice, j'aime l'argent et j'ai le sentiment que la toute-puissance que me procure l'argent me tire quelque part, me tient lié. J'imagine, en tout cas pour ma part, mais sans doute pour la vôtre aussi, que vous avez peu entendu ce genre de confession. Et pourtant, l'Écriture parle beaucoup de l'argent et ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous touchons un thème sensible et parfois même tabou. Parce qu'il nous est difficile de reconnaître que nous avons un problème parfois dans notre relation à l'argent. Au point où nous ne savons plus si c'est nous qui possédons de l'argent ou si c'est l'argent qui nous possède. Et notre problème avec l'argent, c'est que nous avons souvent peur d'en manquer, peur de n'avoir pas assez. Il nous en faudrait plus pour satisfaire nos besoins, plus pour être heureux, plus pour assurer nos vieux jours. On amasse, on empile, on remplit nos greniers jusqu'à ce que ces greniers débordent et notre vie est comme dirigée par une envie irrépressible d'en posséder toujours plus, au lieu de donner toujours plus. Et lorsque nous en sommes là, je crois que cela traduit un manque de confiance envers Dieu. Parce que Dieu a promis de ne jamais nous abandonner. Et si ma relation à l'argent traduit un manque de confiance envers Dieu, c'est qu'elle est devenue malsaine. C'est que l'argent est devenu une idole dans ma vie. Et Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Or Mammon, c'est le Dieu de l'argent. C'est un Dieu tyrannique qui exige tout de nous, toutes nos forces, toute notre énergie. Le problème, c'est comment puis-je être lucide sur moi-même ? Comment témoigner que j'ai une relation libre à l'égard de l'argent ? Ou si je veux être très pragmatique, combien d'argent me faudrait-il donner pour que je ne sois pas estimé avare ? L'évangéliste Luc nous rapporte une parole intéressante à cet égard. Il parle des pharisiens. Et il dit que les pharisiens étaient très attachés à l'argent, Luc 16, 14, et ils se moquaient de Jésus en entendant toutes ses recommandations à l'égard de l'argent. Et on peut se demander, mais comment des gens aussi pieux que les pharisiens, aussi religieux, qui respectaient scrupuleusement toutes les exigences de la loi de Moïse, qui même calculaient fidèlement leur dîme avant d'aller la verser au temple, comment ces gens-là peuvent-ils être décrits comme des gens avares, des gens qui sont très attachés à l'argent ? En fait, Jésus ne les critique pas parce qu'ils versent la dîme. Mais ce qui fait problème aux yeux de Jésus, c'est l'attitude de leur cœur. Il leur dit ceci, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Et voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. » Et en disant « sans négliger le reste », Jésus reconnaît que la dîme était bonne à verser pour les pharisiens. Ce n'est pas ça qu'il critique. Jésus ne critique pas la générosité de ces gens religieux, mais il critique leur échelle de valeur. Ces gens-là sont soucieux d'appliquer à la loi la dîme, même en allant calculer le 10% de ce qu'ils devaient verser sur les plantes aromatiques, mais ils en oublient ce qui est essentiel. Ils en oublient la compassion et la justice. Ils donnent peut-être la dîme, mais ils ignorent le pauvre qui est juste à côté d'eux. Ils donnent peut-être la dîme, mais ils ne pensent plus à leurs parents qui sont dans le besoin. Et c'est cela que Jésus critique. Mais si Jésus ne critique pas le principe de la dîme, que devons-nous en penser, nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance ? Est-ce que nous devons encore nous acquitter de la dîme ? Le prophète Malachie a écrit ceci, une parole de Dieu, Dieu qui dit « Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous me volez parce que vous ne vous en acquittez pas. » Et que dirait Dieu aujourd'hui ? En fait, le principe de la dîme, c'est le fait de verser le dixième de ses revenus. Et c'est un principe qui existe au moins depuis l'époque d'Abraham. C'est un principe qui existait également chez les peuples païens, d'ailleurs. Et la loi de Moïse va préciser le sens de la dîme, son utilité. En Israël, tout le monde devait payer la dîme, même les plus pauvres, et même ceux qui étaient au bénéfice de la dîme, comme les Lévites. Tout le monde devait verser son dixième de ses revenus. Si vous voulez trouver les dispositions principales qui nous parlent de la dîme, vous les trouverez dans Lévitique au chapitre 27, dans Nombre au chapitre 18, dans Deutéronome au chapitre 14. Et les prescriptions que vous allez y lire diffèrent d'un texte à l'autre. Ce qui veut dire que soit le principe de la dîme a évolué dans le temps, soit il y avait plusieurs sortes de dîmes. Mais le principe de base, c'était que chaque année, le dixième de toutes les récoltes de chaque Israélite, ainsi que le premier-né de tout le troupeau, du gros bétail ou du petit bétail, devait être apporté au temple à l'occasion d'une fête spéciale. Et puis, cette dîme était ensuite distribuée aux Lévites, les Lévites qui étaient en charge d'assurer les services du temple. Et lorsque les Israélites montaient au temple pour y apporter leur dîme, c'était l'occasion d'une fête. Et ce qui est remarquable, c'est que Dieu donnait l'occasion aux Israélites de consommer une partie de leur dîme pour faire la fête d'avoir apporté les dîmes au temple. En quelque sorte, Dieu finançait la fête avec l'argent qui lui revenait. Tous les 3 ans, nous disent les textes, il y avait une autre dîme que l'on peut penser être une deuxième dîme, la question se discute, mais une deuxième dîme qui était collectée dans les localités en faveur des plus pauvres. Et la dîme avait donc cette fonction supplémentaire de non seulement soutenir le personnel ecclésiastique, si vous voulez, mais aussi les pauvres parmi le peuple. La dîme était généralement payée en nature, avec du bétail, avec du blé, des céréales, mais elle pouvait aussi être acquittée en argent, à condition d'être majorée de 20% de la valeur du produit. Lévitique 27, 13. On peut se demander, est-ce que ces prescriptions sont encore valables pour nous aujourd'hui? Parce que Jésus a très clairement affirmé qu'aucun trait de la loi ne disparaîtra, et qu'au contraire, nous sommes appelés à pratiquer toute la loi. Toute la loi, mais différemment. C'est désormais plus la loi en tant que telle, comme moyen de salut qui compte, mais c'est l'esprit de la loi qui compte. Nous ne sommes plus tenus d'appliquer la loi en vue d'être trouvés justes aux yeux de Dieu. Notre salut ne dépend plus de l'observance de la loi, mais de notre foi. Pourquoi ne dépend-il plus de l'observance de la loi? Parce que personne ne serait trouvé juste s'il en dépendait. Personne ne peut respecter la loi à 100%. Et c'est pour cela que Jésus, par sa grâce, nous dispense de cette observation stricte, mais nous invite à en comprendre le sens afin de comprendre la volonté de Dieu. Il a en quelque sorte changé notre rapport à la loi. Il est venu nous montrer un chemin nouveau, qui ne consiste pas à s'acquitter de son devoir en pensant avoir fait le bien et être un propre juste, mais il est venu questionner nos motivations. Pourquoi est-ce que je donne de l'argent? Qu'est-ce que cela signifie de mon rapport à Dieu? Est-ce que ma manière de donner montre que je suis soumis au roi des rois, que je lui fais confiance pour les besoins de mon existence? Est-ce que mon don est une vraie participation à l'œuvre de Dieu, un vrai signe de reconnaissance pour tous les bienfaits que j'ai reçus? Et si vous voulez, la loi a pris ce sens d'un poteau indicateur. La loi est là pour nous indiquer une orientation, pour nous faire comprendre le projet de Dieu. Elle est là pour éclairer aussi notre être intérieur. Elle vient illuminer nos motivations les plus cachées et les plus profondes. La loi est une forme d'instrument pédagogique entre les mains de Dieu. Et alors, quelle est la pédagogie de Dieu avec la dîme. J'aimerais relever en tout cas trois aspects. Premièrement, cette loi est une loi du cœur, une loi qui nous pousse à faire du bien à autrui. Remarquez, comme je l'ai dit, que la dîme était destinée aux Lévites et aux pauvres. Et elle nous montre la direction dans laquelle Dieu veut que nous agissions. Il veut que les chrétiens d'aujourd'hui se soucient de soutenir l'œuvre et le ministère de la parole, sous toutes les formes que cela peut prendre. Il veut également que nous nous soucions de nos frères et sœurs, en priorité les plus proches, les membres de notre famille, la famille physique et la famille spirituelle. Un deuxième principe qui ressort de l'application de la dîme, c'est que la dîme était prélevée sur les prémices, sur la première partie de la récolte et sur le premier-né du bétail. Cela indique que cette dîme était là comme un instrument de reconnaissance. Dieu m'a donné une récolte, je vais lui donner la meilleure partie, la première partie. On ne donnait pas à Dieu les restes, comme s'il s'agissait d'une forme de pourboire. Dieu n'a pas besoin de nos pourboires. Il attend notre reconnaissance. Il ne veut pas que nous donnions dans une attitude de contrainte, avec tristesse, en sortant la dernière pièce de notre poche. Il veut que nous puissions donner avec reconnaissance et avec joie. Troisième principe de la dîme, c'est que la dîme était complétée d'une deuxième dîme, tous les 3 ans en faveur des pauvres. Mais non seulement il y avait cette deuxième dîme, mais il faut rajouter à cela encore tous les sacrifices qui étaient offerts en Israël. Les Israélites devaient aller régulièrement au sanctuaire pour offrir des sacrifices avec du petit ou du gros bétail, parfois avec des offrandes végétales. Et cela représentait un vrai coût, en plus de la dîme. Souvenez-vous d'Anne, la femme d'Elkana, celle qui attendait désespérément un enfant. Un jour, elle se rend à Silo, au sanctuaire de l'Éternel. Elle a reçu ce cadeau d'un enfant de la part de Dieu. Cet enfant maintenant est sevré, elle va pour le donner, le confier à Dieu. C'est son premier-né. Elle le donne en quelque sorte à Dieu. Elle le confie à la garde d'Élie. Et non seulement elle va laisser son enfant, mais en allant au sanctuaire, elle apporte avec elle un taureau de 3 ans, ainsi que 10 kg de farine et une outre de vin, tout cela pour faire un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez de la famille qui est dans l'agriculture ou dans la paysannerie. Moi-même, j'en ai. Et je sais ce que coûte une bête pour un paysan. C'était une vraie somme d'argent que d'offrir un sacrifice à l'Éternel en guise de reconnaissance. Et cette générosité d'Anne devrait nous faire réfléchir. En parlant de la dîme de cette manière-là, certains vont peut-être me rétorquer que la dîme servait à couvrir les besoins des pauvres en Israël. Or, aujourd'hui, en France, comment soutient-on l'aide aux pauvres ? Généralement, par le biais de l'impôt. Et la dîme était aussi un impôt. Donc on pourrait se dire que peut-être nous n'avons plus besoin de donner autant d'argent puisque nous payons déjà des impôts. Alors à ceux qui sont dans ce genre de calcul, je rétorquerai ceci, c'est que lorsque nous faisons aujourd'hui en France 100 euros de dons et que nous payons des impôts, l'État nous en restitue 66. Autrement dit, pour chaque 33 euros de dons que je fais, l'État en rajoute 2 fois autant. Il en rajoute 66. Voyez le genre de calcul que l'on peut être amené à faire. Je crois que ce n'est pas dans cette attitude-là que le Seigneur veut que l'on soit, parce que ce genre de calculs peuvent bien vite devenir malsains. Ils peuvent traduire notre volonté de nous justifier en ayant le sentiment d'avoir accompli notre devoir. Et finalement, nous sortons de la reconnaissance. Le geste d'Anne qui va au temple traduit une vraie reconnaissance. Et cette générosité qui est la sienne, elle devrait nous interpeller. Comment le Nouveau Testament nous parle-t-il de la dîme ? Je vous ai dit, Jésus ne critique pas la dîme, mais la suite du Nouveau Testament nous invite à prolonger cet enseignement et aller bien au-delà, finalement, aller vers l'intention de la loi. Et Jésus va dire ceci, il va dire, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. En d'autres termes, Dieu ne nous demande pas seulement la dîme, comme si après avoir versé la dîme, nous aurions accompli notre devoir et que nous en aurions terminé et que nous pouvions jouir finalement des 90% restants. Non, Dieu nous demande la totalité de nos biens et de nos revenus parce que tout est à lui et tout lui revient. Et verser la dîme au sens strict, c'est finalement plutôt un point de départ qu'un point d'arrivée. Le Nouveau Testament ne va plus parler de la dîme, mais il va évoquer par la suite les offrandes et les collectes. Et l'offrande fait référence à l'offrande de Jésus-Christ à la croix. À la croix, Jésus est mort pour nous. Dieu était immensément bon à notre égard. La preuve ultime de sa générosité, c'est le sacrifice de Jésus. Et nous pouvons nous demander, mais comment, face à un tel sacrifice, pourrions-nous être ingrats et ne pas être reconnaissant en retour? Et c'est à cause de cette immense bonté de Dieu que Paul écrit aux Romains en les appelant à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. En d'autres termes, Paul dit « Offrez votre corps comme une offrande à Dieu, avec tout ce que vous avez. » Nous ne sommes plus dans l'ordre de l'impôt ecclésiastique, mais nous sommes dans le registre du culte. Notre offrande est un geste cultuel. Et c'est pour cela qu'en participant à l'offrande lors des cultes, je ne suis pas en train de verser une obole, mais je participe à un geste cultuel. Je consacre et je me consacre à Dieu avec tous mes biens. Et ce que je donne lors de l'offrande, je le donne sans regret ni contrainte. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des cultes africains. Un certain nombre d'entre vous, j'en suis certain, connaissent la pratique des cultes africains. Mais lors de l'offrande, il y a une musique extrêmement joyeuse. Les gens s'avancent en dansant jusque devant et versent leur contribution dans l'offrande, dans la joie et la reconnaissance. C'est une vraie fête, un vrai moment de joie. Je ne sais pas comment vous vivez ce moment de joie quand les bourses passent dans les rangs, mais c'est à cela que nous sommes appelés, un vrai moment de joie, et non pas à quelque chose où je me sens jugé des autres, je suis obligé de donner, quel va être le regard des autres sur ce que je mets ou ne mets pas. Nos méthodes modernes de paiement nous faussent un peu la donne en la matière, puisqu'aujourd'hui nous pouvons virer notre offrande via un virement bancaire. Cela a un avantage. Cela a l'avantage d'avoir pu réfléchir à l'avance à ce que j'allais donner et verser. Et du coup, quand je le verse, je le fais avec conviction parce que c'est vraiment ce que j'ai décidé. Le risque peut exister que j'ai le sentiment d'avoir payé mon impôt, d'avoir fait mon devoir, et que je suis désormais acquitté de mon dû. Et si tel était le cas, je crois que Jésus me reprendrait, me dirait « Pharisien, toi qui t'acquittes de la dîme sur les petites herbes, mais qui oublies peut-être les autres besoins qui sont encore là à côté de toi. » John Wesley a beaucoup parlé de l'argent, et lui-même était un homme très généreux. John Wesley est le père du méthodisme. Il a eu cette phrase fameuse, ce slogan en quelque sorte, qui disait « Gagnez tout ce que vous pouvez, économisez tout ce que vous pouvez et donnez tout ce que vous pouvez. » Il ne s'agit pas de gagner de l'argent pour être plus riche, il ne s'agit pas d'économiser pour avoir des comptes bancaires qui débordent, il s'agit d'avoir de l'argent pour pouvoir donner tout ce que nous pouvons donner. Donner le plus possible. Dans ce sens-là, il n'est pas faux de chercher à gagner de l'argent, même si l'argent peut être un piège et que l'intention de départ n'est pas toujours suivie d'effet. Je connais une personne qui héritait d'une grande fortune de la part de son père qui était milliardaire. Son père était un chrétien très engagé, un chrétien très généreux qui a financé beaucoup d'œuvres chrétiennes. Avec l'argent qu'il a légué, ses enfants ont pris soin du patrimoine qui leur revenait. Ils ont créé des fondations pour ne pas dilapider le capital, mais avec tous les intérêts engendrés par ce capital, ils ont continué à bénir l'œuvre du Seigneur, soit en finançant l'annonce de l'Évangile, soit en finançant des projets humanitaires. Cet homme aurait très bien pu dilapider son argent, le dépenser pour mener un grand train de vie, mais il a choisi de mener une vie simple, sans grand faste, au regard des richesses qui sont les siennes. Quand on dit « donner le plus possible », cela ne veut pas toujours dire ne pas avoir de compte en banque, mais cela veut dire gérer l'argent de manière intelligente. Mais parfois, ce compte en banque n'existe simplement pas parce que nous sommes pauvres, que nous n'avons aucun moyen de mettre de l'argent de côté. Et un jour, Jésus regardait les gens qui entraient dans le temple et qui mettaient leurs dons dans le tronc. Et l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 2, nous dit que Jésus aperçut une pauvre veuve qui glissait deux petites pièces. Il dit alors, « En vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu, mais elle, elle a pris sur son nécessaire et elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Vous voyez, ce texte nous montre que Dieu ne regarde pas tant à la somme versée qu'à l'attitude du cœur. Il regarde à la manière dont je gère finalement les biens qu'il m'a confiés. Dieu fait de nous des intendants, des gestionnaires. Il nous confie un patrimoine, il nous confie une fortune, et il nous demande d'en être de bons intendants, parce qu'un jour nous devrons rendre compte de la manière dont nous avons géré les biens qu'il nous a confiés. Je me souviens d'un directeur des douanes en Suisse qui était aussi prédicateur laïque, bien engagé dans la vie de l'Église. Et puis, vous le savez, les Suisses ont tous de très gros comptes bancaires, il n'existe aucun pauvre. Alors, en parlant d'argent, il nous invitait à ne pas être dans cette logique de donner simplement le 10%, mais dans une autre forme de logique. Il nous invitait à ne garder pour soi que ce qui était nécessaire, en menant une vie relativement simple, et en offrant tout le reste à Dieu. Ça ne voulait pas dire ne pas avoir de compte bancaire, mais cela voulait dire que s'il y a plus sur le compte bancaire que ce qui m'est nécessaire pour vivre, c'est de l'argent que je vais destiner maintenant, ou au moment de ma mort, avec mon héritage, je vais le destiner pour l'œuvre du Seigneur. J'étais jeune pasteur à ce moment-là, quand il avait interpellé les pasteurs avec cette parole, et je me souviens que cela m'avait amené à réfléchir différemment. Ce qui comptait n'était plus ce que j'offrais, mais ce que j'allais garder pour moi. Et notre texte du jour dit ceci, « Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits, et ainsi vous aurez, en tout temps et en toute chose, tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Donnez sans contrainte. Comment dois-je donner pratiquement? Nous avons des recommandations extrêmement pratiques dans l'Écriture et je vais terminer par là. Dans Corinthiens 16, Paul aborde le sujet de l'offrande destinée à la faveur de l'Église de Jérusalem. une église qui souffre des conditions d'une famine exceptionnelle. Il s'agit d'aider les frères et les sœurs là-bas avec les nouvelles églises qui se sont formées en Asie mineure. Et pour aider les chrétiens à préparer cette collecte, que lui-même va les prendre pour l'amener à Jérusalem, il donne un certain nombre de principes. Et à partir de ces principes, je crois que nous pouvons les reprendre à notre compte pour dire voilà comment nous pouvons, nous, aujourd'hui, donner de l'argent. Et voilà ce qu'il écrit en Corinthiens 16, verset 2. « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. » Reprenons chaque mot de ce verset. Que chacun de vous mette de l'argent de côté. Que chacun de vous. Ça veut dire que tout le monde est concerné. Il ne s'agit pas d'attendre d'être riche ou d'avoir assez d'argent. Tout le monde, aussi bien le jeune qui est encore aux études, il prélèvera peut-être un peu d'argent sur son argent de poche, aussi bien le serviteur de Dieu qui est au bénéfice des offrandes des autres, que la personne âgée qui reçoit une modeste pension ou que l'épouse au foyer dont le mari n'est pas chrétien, pour autant que celui-ci consente qu'elle ait un peu d'argent dont elle dispose librement. Tout le monde, le pauvre est-il aussi concerné? Eh bien, on a l'exemple de la pauvre veuve qui a glissé ses deux petites pièces, qui n'étaient sans doute pas grand-chose, mais qui pour elle étaient déjà non plus de l'ordre du superflu, mais de son nécessaire. On a l'exemple aussi de la veuve de Sarepta, qui a donné jusqu'à la dernière goutte d'huile pour nourrir un prophète. Et comment Dieu a-t-il répondu? Il a nourri ensuite cette pauvre veuve jusqu'à la fin de ses jours. Le texte nous dit que chacun de vous, chez lui, pourquoi ce détail chez lui? Je pense que c'est un détail qui a son importance. Nous pourrions être dans des contextes très émotionnel, avec des appels forts qui nous poussent à être généreux, à donner de l'argent. On passe ensuite la collecte, on fait la collecte, pardon, et nous sommes poussés à donner parce que nous avons été sensibilisés à une situation précise. Si Paul prend le soin de dire chez lui, je crois qu'il nous invite en fait à réfléchir la tête froide que nous voulons donner. Parce que cela nous permettra de mieux cerner quels sont les véritables besoins et de ne pas agir simplement sur la base d'appels vibrants. À la maison, chez moi, dans la prière, je peux définir la somme que je vais consacrer au Seigneur, celle que j'aurai pris la peine de mettre à part, de côté, et donc celle que je pourrai aussi donner sans regret. Paul continue en disant « Mettez à part ce que vous pourrez ». Ce que vous pourrez, c'est-à-dire selon mes ressources personnelles. Dieu ne va jamais me demander de me mettre dans une situation d'embarras, de devoir être dépendant des autres parce que j'étais trop généreux moi-même. Le premier jour de la semaine est-il précisé? Pourquoi? On en revient au principe des dîmes. Qui étaient versés comme les prémices, la première part. Eh bien, le premier jour de la semaine, c'est ce même principe. Je suis appelé à donner, non pas à la fin du mois, en fonction de ce qui me reste sur mon compte, mais au début du mois, avec ce que j'ai décidé librement de donner au Seigneur. Et si j'ai un budget modeste, peut-être sera-t-il opportun que je dresse un budget pour mieux gérer mon argent et savoir combien en début de mois je peux mettre à disposition du Seigneur. La règle, c'est que Dieu est le premier servi. Et je crois que c'est là le sens des prémices dans l'Ancien Testament. Comment déterminer librement ce que je vais donner au Seigneur, puisque je suis appelé à donner librement? Si j'en reviens au principe de la dîme, je pense que celle-ci nous donne un ordre de grandeur intéressant. Elle nous donne une première indication qui nous invite à la générosité. Mais je dois aller au-delà de ça. Peut-être que quelqu'un sera très généreux en versant 5% de ses revenus. Et peut-être que quelqu'un sera trouvé avare aux yeux de Dieu en versant 15% de ses revenus. Donner librement, ce n'est en tout cas pas ne rien donner. Parce que celui qui retient l'argent pour lui-même n'est pas libre, il est plutôt esclave de l'argent. Donc Jésus dit, donnez selon vos moyens. Non pas au-dessus de ce que j'ai à disposition, mais selon ce que le Seigneur m'a donné. J'aime peut-être le Seigneur. Je suis préoccupé peut-être par son règne. Mais si je n'ai jamais appris à donner, cela peut être une difficulté énorme aujourd'hui de commencer à donner. Et on constate facilement que la bonne volonté ne suffit pas. Même les Corinthiens avaient eu la bonne volonté de participer à la collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem. Et Paul doit leur écrire une deuxième fois dans la deuxième lettre aux Corinthiens en leur disant « Maintenant, passez aux actes, afin que vous réalisiez ce que vous avez décidé avec empressement. » Donc quelqu'un hésite peut-être ce matin à prélever sur ses revenus un pourcentage d'une certaine importance. Permettez-moi d'être très pratique et d'être très pragmatique, mais peut-être qu'il est sage de commencer modestement et de verser, pourquoi pas, 3%, 5%, en disant à Dieu, « Seigneur, j'ai des craintes, je ne sais pas comment je vais faire. » Et peu à peu, en apprenant à faire confiance au Seigneur, en voyant comment Dieu répond aussi à la confiance qu'on lui fait, on pourra évoluer dans notre pratique, grandir dans la confiance et peut-être donner davantage si Dieu nous fait la grâce d'en avoir les moyens. Dieu va toujours s'occuper de nous si nous faisons ce geste dans la prière et avec sagesse. Il va toujours s'occuper de nous et toujours nous donner assez pour vivre. Si quelqu'un dit ce matin « c'est impossible », je dis « essaie, essaie ». Nous sommes invités à la générosité envers celui qui a été tellement généreux pour nous. Nous ne donnons pas de l'argent pour le pasteur, nous ne donnons pas de l'argent à notre famille spirituelle ou physique, nous donnons d'abord de l'argent à Dieu. Et c'est pour Dieu que nous faisons cela, pas pour des personnes. Souvenez-vous, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement, nous dit l'Écriture. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de disposition de cœur. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être généreux en retour de sa générosité pour nous. Amen. Je vous invite encore à la prière. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, pour toute ta générosité envers nous, manifestée en Jésus-Christ, manifestée par ta providence qui fait que nos besoins sont comblés, nos besoins spirituels, mais aussi nos besoins matériels. Seigneur, pourvois à nos besoins. Donne-nous notre pain de ce jour. Et donne-nous, Seigneur, d'être généreux, d'être soucieux de ceux qui n'ont pas, de partager notre pain. Donne-nous d'être soucieux de la progression de ton royaume et de partager, Seigneur, quelque chose de ce que tu nous as donné pour que ton œuvre progresse, pour que des personnes puissent apprendre à te connaître, pour que l'Évangile soit connu du plus grand nombre. Seigneur, donne-nous de pouvoir nous réjouir, de pouvoir œuvrer avec reconnaissance dans la grâce qui est la tienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.